Le journal Sébastien Legenis. Bonjour Sébastien.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, le président français en visite au Niger pour défendre l'opération Barkhane, opération de lutte contre le terrorisme qui vit un tournant selon Emmanuel Macron. Nous étions aux côtés du chef de l'État pendant sa visite. Reportage à suivre. À suivre également la suite du mouvement contre la réforme des retraites et ses conséquences sur l'économie. Exemple dans ce journal avec les salles de spectacle parisiennes très affectées. La prime Macron version 2019 qui risque de faire moins d'heureux que l'an dernier en cause de nouvelles conditions d'attribution. La décontamination du site de Fukushima au Japon toujours en cours. 80% des terres ont été jusqu'ici décontaminées. Puis on terminera avec un album mythique Space Oddity de David Bowie dont on fête cette année les 50 ans.
À 7h50, notre invitée sera la députée LREM et vice-présidente de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Olivia Grégoire.
France Inter.
Direction le Sahel pour commencer, un mois après la mort de 13 soldats français, c'était le 25 novembre dernier. Des hommes de la force Barkhane à la poursuite de djihadistes se tuaient au Mali dans un crash entre deux hélicoptères, révélant toute la difficulté de cette mission de l'armée française. Un peu moins d'un mois après le drame, Emmanuel Macron s'est donc rendu en Afrique, au Niger, notamment pour préparer le futur sommet de Pau. Ce sera le 13 janvier prochain avec tous les pays du G5 Sahel. Le chef de l'État français cherche ainsi à remobiliser ces pays où la présence française est de plus en plus critiquée. Aux côtés du président pendant cette visite, il y avait aussi le patron de la force Barkhane, présent pour convaincre de la nécessité absolue de cette opération et aussi pour témoigner. C'est le reportage de notre envoyé spécial sur place, Cyril Graziani.
Il y a un peu plus d'un mois, 13 de ces hommes sont tombés au combat. Le général Pascal Facon dirige l'opération Barkhane au Sahel. Chacun de ces mots est pesé.
Tout ce qu'on ressent relève de l'intime. Et on n'en parle plus. Ça nous appartient. Et c'est comme ça qu'on a réussi à dépasser cette période de deuil, que maintenant on est reparti. À vrai dire, on ne s'est jamais vraiment arrêté. Le soir même du crash, on était au combat.
Hier à Niamey, dans un préfabriqué de la base, il a détaillé à Emmanuel Macron et son état-major les avancées de l'opération. Le chef de l'État, lui, est aussi venu soutenir son homologue, le président Issoufou, qui a connu encore plus récemment pareil deuil. Mais pas question pour le président nigérien de remettre en question Barkhane. Au contraire.
La sécurité est un bien public mondial. Donc le combat que nous menons ici au Sahel, nous le menons aussi pour l'Europe. Si les Européens ne s'engageaient pas davantage à nos côtés, ils auront à faire cette guerre sur leur territoire.
Si le Niger en appelle aux Européens, Emmanuel Macron a lancé un avertissement à deux autres pays du Sahel, sans les citer, mais une nouvelle fois, il vise clairement le Mali et le Burkina Faso.
Je vois, en effet, dans trop de pays prospérer, sans condamnation politique claire, des sentiments anti-français. Je ne peux pas accepter d'envoyer nos soldats sur le terrain, dans des pays où cette demande n'est pas clairement assumée.
Surtout que pour Emmanuel Macron, les semaines qui viennent sont décisives. Nous sommes, dit-il, à un tournant de cette guerre.
Cyril Graziani, au Niger. Rappelons que lors de sa visite en Afrique, la décision d'Emmanuel Macron de mettre fin au franc CFA, perçu comme l'un des derniers vestiges de la France-Afrique, le colonialisme qualifié de faute, d'erreur, par le chef de l'État qui s'est vu accusé dans la foulée par Marine Le Pen de, je cite, « salir l'histoire de France ». En bref, encore à l'étranger, la mort d'un soldat américain ce matin en Afghanistan, tué dans un attentat revendiqué par les talibans. De quoi fragiliser les discussions de paix en cours avec Washington. On en vient à l'actualité française du moment, les grèves contre la réforme des retraites, pas de trêve pendant les fêtes. Justement, l'appel du président Macron depuis l'Afrique à cesser le mouvement n'a pas été entendu. Loin de là, les lignes n'ont pas bougé pendant le week-end. Les syndicats appellent à la poursuite du mouvement, y compris la CFDT cheminots. La circulation restera donc très perturbée ce lundi. 2 TGV sur 5, 1 Transilien sur 5, 4 TER sur 10 en moyenne. 6 lignes de métro fermées encore aujourd'hui. Puis demain mardi, sachez que les lignes transiliennes s'arrêteront progressivement de circuler vers 18h jusqu'à au moins mercredi après-midi. Une situation, on le sait, qui affecte lourdement les commerçants cette fin d'année et pas seulement. Les salles de spectacle parisiennes, Adrien Toffolet, sont aussi très touchées.
Rares sont ceux qui ont vu ce Prince Igor à l'Opéra Bastille. Depuis le 5 décembre, l'épopée russe n'a plus été jouée. Ses salariés sont en grève contre la réforme des retraites. Et pour l'Opéra de Paris, le bilan est dur. Plus de 30 représentations annulées à la dernière minute. 6 millions d'euros de pertes, rien qu'en billetterie. Dans le privé, pas de grève, mais faute de transport, les spectateurs rechignent à réserver au dernier moment. Bertrand Tamin est le président du syndicat national du théâtre privé.
C'était très inquiétant, ça vire un peu au catastrophique. On est dans une période de l'année où normalement les théâtres sont pleins. Au début du mois de décembre, on était plutôt sur des baisses de recettes. constaté de fréquentation de l'ordre de 40%, et ce qui s'annonce pour les jours à venir, on est plutôt à moins 50, moins 60%.
Mais toutes les salles, tous les spectacles ne sont pas impactés de la même façon. Jean-Marc Dumontet, propriétaire de plusieurs salles à Paris, constate un effet loi de la jungle.
Art, par exemple, au Théâtre Antoine, qui connaît une magnifique trajectoire, qui est peu impacté. On va perdre 5 à 10%. En revanche, des spectacles que je peux avoir au point virgule, des jeunes comédiens qui sont en train de démarrer dans leur carrière et dans leur développement, il est évident que comme les réservations de dernière minute ne fonctionnent pas, c'est très pénalisant. Donc vraiment, les spectacles qui marchaient, ils continuent à marcher. Ceux qui avaient des difficultés, le ralenti est vraiment assez dévastateur.
Heureusement, les perspectives redeviennent positives à moyen terme. Les professionnels constatent déjà un rebond sur les pièces et spectacles qui commenceront fin janvier, un temps que plus personne n'imagine perturbé par aucune grève.
Voilà notre ténor Adrien Toffolet. En économie toujours, y aura-t-il de la prime à Noël? La prime Macron, l'an dernier, avait fait un carton, une prime versée par les employeurs, exonérée de toute charge. 5 millions de salariés l'avaient touchée, 400 000 entreprises avaient joué le jeu. Sauf que cette année, les conditions d'attribution ont changé, avec notamment l'obligation de la mise en place d'un accord d'intéressement dans l'entreprise, souvent impossible dans les très petites sociétés, très déçues par le nouveau dispositif, Laurent Kramer.
Dans ces quatre salons de coiffure strasbourgeois, Benjamin Stalter, grâce à l'exonération de charges prévue par la prime Macron, avait multiplié l'an dernier par 3 la prime qu'il verse habituellement à Noël à ses employés. Le nouveau dispositif retenu cette année par le gouvernement est beaucoup trop contraignant, regrette le commerçant.
Moi je suis le premier déçu parce que l'année dernière c'était une bonne nouvelle. Mes collaborateurs sont les seconds déçus aussi. On va donner nettement moins, peut-être même pas, parce que comme on n'a pas d'accord d'intéressement dans nos entreprises, comme 90% des artisans, on ne pourra pas profiter de la prime Macron.
Imposer aux petites entreprises et commerçants la signature d'un accord d'entreprise sur l'intéressement est absurde et injuste au regard de leur mode de fonctionnement. La déception des salariés sera énorme cette année, estime Laurent Rigaud, artisan boucher du Nord, près de Tourcoing.
Ce qui fonctionne, ne touchez pas. Et celle-là, fallait pas la toucher. D'avoir un petit peu plus, et bien là, il y avait une reconnaissance. Là, on disait que c'était parce qu'il y avait une action de l'État qui faisait qu'on pouvait le faire. Et bien là, on dira l'inverse. On dira l'action de l'État fait que vous l'aurez pu. C'est pas nous, c'est l'action de l'État qui dit que vous l'aurez pu. Et je comprends pas que ça, ils comprennent pas. Tout de suite, remettre une règle pour les petites entreprises. Parce que les grosses entreprises, eux, ils vont pouvoir le faire sans aucun problème.
Selon le syndicat des indépendants, 97% des petites entreprises ne verseront pas la prime Macron en 2020.
Laurent Kramer, un mot sur les intempéries du week-end et en particulier sur les dégâts de la tempête Fabien. La Corse n'est plus en vigilance orange depuis ce matin. 3500 foyers sont encore privés d'électricité. La Corse qui reste coupée du monde. L'aéroport d'Ajaccio inondé va rester fermé. Le temps de pomper l'eau sur les pistes, pas de bateaux non plus. Puis plus largement sur le continent, encore 18 000 foyers privés de courant, notamment dans le sud-ouest. Direction le Japon maintenant. Le Japon qui fait le bilan 9 ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima. Une très grande partie des sols a pu être décontaminée grâce à une technique particulière, le décapage, le raclage en clair de la terre sur 5 cm de profondeur. Ainsi, 9000 km² ont pu être décapés. Résultat, 80% des sols japonais à Fukushima ont été décontaminés. Reste toutefois des sols non traités et potentiellement très menaçants, Sophie Becherel.
L'évacuation et la fermeture de la zone à Tchernobyl, le décapage à Fukushima. Dans l'idée de faire revenir les habitants, les autorités japonaises avaient rapidement décidé de retirer 5 cm de sol dans 40 communes autour de la centrale. 8 ans après, la grande majorité du césium 137 a disparu des zones cultivées. Pour Olivier Evrard, chercheur au commissariat à l'énergie atomique, choisir de décaper la couche superficielle était donc judicieux.
Faire baisser en moyenne de 80% les niveaux de radioactivité à la surface des sols, c'est assez efficace. Par contre, ça pose d'autres questions sur les zones qui n'ont pas été traitées et puis sur ce qu'on fait de la matière qu'on a retirée en décapant les sols.
Au total, 20 millions de mètres cubes de déchets radioactifs sont stockés, mais ne sont pas concernés les 3/4 de la région non décontaminée, les forêts. Dans un pays régulièrement soumis au typhon, la pluie peut participer à une recontamination. Cela inquiète Yuki Takahata. Cette japonaise suit attentivement le dossier pour le réseau Yosomono Net qu'elle a créé.
À chaque fois qu'il y a des pluies, des orages, il y a des radioéléments qui peuvent encore revenir vers les habitations, vers les terres. NHK, c'est la télévision japonaise, a compté 91 sacs des terres contaminées qui ont été remportées dans les rivières.
Ce risque est aussi mis en avant par les scientifiques. Pendant Pendant 5 ans, ils ont donc décidé de faire le suivi du césium résiduel afin d'identifier les zones de recontamination.
Sophie Becherel, en Équateur, une nappe de 2300 litres de fioul issue du naufrage d'une barge dans un port menaçait l'île des Galapagos, inscrite au patrimoine de l'humanité. Cette nappe de diesel a été maîtrisée. Allez, on termine en musique avec les 50 ans d'un album légendaire, les 50 ans de Space Oddity de David Bowie. Un coffret vient de sortir, un livre et 5 CD très complets sur cette période où le chanteur n'est pas encore une star de la pop. À l'époque, la chanson devient la bande-son de l'alunissage d'Apollo 11, Mathieu Culeron. Take your protein pills and
put your helmet on. Le premier disque de David Bowie est un échec cuisant. George Martin, producteur des Beatles, vient de refuser de produire le deuxième album. Son éditeur contacte alors un jeune réalisateur, Tony Visconti. Il se souvient de sa rencontre avec le chanteur.
Quand je l'ai rencontré, il étudiait le mime avec Lindsay Kemp. Il faisait ce drôle de spectacle à la manière de Marcel Marceau. Ça a été son premier personnage et il pensait vraiment en vivre à l'époque.
Dans ce coffret, on retrouve notamment toutes les étapes de fabrication du titre Space Oddity, plusieurs versions de l'histoire de Major Tom, dont celle où il partage le micro avec Lindsay Kemp, mais aussi le tout dernier mix de Tony Visconti sorti cette année.
Il y a 50 ans, quand j'ai fait cet album, je ne savais pas du tout ce que je faisais. Je suis très fier du son dans cette nouvelle version et je suis persuadé qu'on parlera de David Bowie dans 100 ans.
Conversation Piece, un superbe coffret pour les fans de David Bowie, 5 CD et un album de photos et de textes sur un album charnière pour la future mégastar de la pop.
Voilà les 50 ans de Space Oddity de David Bowie que l'on écoutera, j'en prends les paris, encore dans 50 ans, Ali.
Merci Sébastien Legénie. À suivre sur France Inter, l'édito politique.